Chapitre 26. Entre Londres et Chatham. Comme il convenait à un grand seigneur de son espèce, notre ami George, en quittant Brighton, fit la route dans une berline à 4 chevaux et descendit dans un splendide hôtel de Cavendish Square. Là, le jeune gentleman prit pour lui et sa nouvelle épouse une longue suite de salles magnifiquement décorées, une table garnie de vaisselle plate, et se fit servir par une demi-douzaine de domestiques noirs, silencieux comme les muets du sérail. George fit les honneurs à Joss et Dobbin avec une aisance toute princière. Pour la première fois, Amelia, surmontant à peine sa timide gaucherie, présida ce que George appelait pompeusement la table de sa femme. L'amphitryon faisait le difficile pour les vins, et ses airs de monarque en imposaient aux domestiques. Joss avalait sa soupe à la tortue avec une satisfaction gloutonne, et Dobbin lui complétait ce qui faisait défaut sur son assiette par suite de l'inexpérience à servir de la maîtresse de maison. Les yeux de Joss témoignaient au capitaine de la reconnaissance de son estomac. La somptuosité du repas et de l'appartement provoqua la sollicitude du bon Dobbin pour la bourse de son ami. Après le dîner, tandis que Joss était à ronfler dans le grand fauteuil, il hasarda quelques observations sur cette recherche dans les mets, cette prodigalité de vin de champagne vraiment digne d'un archevêque, mais ce fut en vain. « J'ai toujours été habitué à voyager en gentilhomme, » répondit George, « et quand le diable y serait, ma femme aura toutes les aises auxquelles elle doit prétendre dans son rang. Tant qu'il restera un sou dans ma bourse, j'entends qu'elle vive au sein de l'abondance. » George paraissait trop satisfait de ses grands airs de générosité pour que Dobbin cherchât plus longtemps à lui persuader que le bonheur d'Amelia n'était point dans une soupe à la tortue. Un peu après le dîner, Amelia exprima timidement le désir d'aller voir sa mère à Fulham. George y consentit, mais non pas sans avoir d'abord accueilli sa demande par de grondeuses paroles. Elle alla s'apprêter dans son immense chambre à coucher où s'élevait un immense lit de parade où avait dormi la sœur de l'empereur Alexandre lorsque les souffrants alliés s'étaient rendus à Londres. Elle mit son petit chapeau et son châle avec beaucoup d'empressement et de plaisir. George, pendant ce temps, était resté dans la salle à manger à boire du Bordeaux, et quand elle revint, il ne se dérangea pas le moins du monde. « Vous ne m'accompagnez pas, cher ami ?» lui dit-elle d'un ton câlin. Réponse négative. Le cher ami avait affaire ce soir-là, et il laissa à son valet de pied le soin d'accompagner Milady. Quand la voiture qu'on avait envoyée chercher fut arrivée à la porte de l'hôtel, Amelia prit congé de George d'un petit air boudeur. Après 2 ou 3 coups d'œil inutiles, elle descendit tristement le grand escalier. Le capitaine Dobbin la suivit par derrière, lui présenta la main pour monter en voiture et la regarda partir. Le valet, pour n'avoir point à rougir en donnant l'adresse au cocher devant les gens de l'hôtel, lui promit de la lui indiquer un peu plus loin. Dobbin prit la route de son vieux quartier, tout en pensant en lui-même au plaisir qu'il aurait eu de se trouver dans le fiacre à côté de Mrs. Osborne. George, évidemment, n'était pas dans les mêmes idées, car lorsqu'il fut là de boire, il sortit et acheta une contremarque pour voir M. Keane dans le rôle de Shylock. C'est que le capitaine Osborne aimait beaucoup le théâtre. Il avait même joué certains premiers rôles d'une façon fort brillante dans des représentations données au régiment. Lorsque M. Joseph se réveilla en sursaut au bruit que faisait son domestique en vidant les carafons placés sur la table, il faisait nuit noire depuis longtemps. Un nouveau fiacre fut mis en réquisition à la station voisine et l'on transféra M. Joe d'abord chez lui et puis ensuite dans son lit. La visite de la pauvre Amelia fit passer à Mrs. Sedley quelques moments bien doux pour ses affections maternelles. Elle s'élança vers la porte quand la voiture s'arrêta à la grille du jardin, et elle serra avec effusion dans ses bras la jeune mariée tremblante et émue jusqu'aux larmes. Le vieux M. Clapp, qui était en bras de chemise à bêcher ses plates-bandes, se sauva tout honteux de son accoutrement, et la grosse fille irlandaise franchit d'un bond l'escalier de la cuisine pour faire son plus beau sourire à la nouvelle arrivée. Amelia, chancelante, avaient peine à arriver au salon. La mère et la fille laissèrent couler leurs pleurs sans contrainte dès qu'elles purent, à l'abri de ce sanctuaire, se livrer à la vivacité des sentiments qui débordaient dans leur cœur. Il y eut bien des larmes répandues, comme le comprendra tout lecteur sentimental. les larmes dans toutes occasions, soit tristes, soit joyeuses, ne sont-elles pas la suprême ressource des femmes? Une mère et sa fille ont bien le droit de donner un libre cours à ces délicieux épanchements. Les bonnes mères se remarient à la noce de leur fille. Jugez de ce qui advient à un degré de plus. Tout le monde sait à quoi s'en tenir sur les grands-mères et leur tendresse ultra-maternelle. Je poserai volontiers en principe qu'on ne connaît bien l'amour maternel que lorsqu'on est passé à l'état de grand-mère. Laissons dans la demi-teinte d'obscurité qui règne au salon les sanglots, les larmes et les rires d'Amélia et de sa mère. Le vieux Sedley nous en donne lui-même l'exemple. Sa pénétration, à lui, n'avait pas été à deviner qui se trouvait dans la voiture qui s'était arrêtée à la porte. Il n'avait pas couru au-devant de sa fille, mais il l'avait étroitement serrée contre son sein lorsqu'elle était entrée dans la maison, où il vivait au milieu de ses paperasses, de ses fils rouges et de ses comptes. Il causa un instant avec la mère et la fille, puis sortit discrètement de la pièce pour leur laisser toute liberté. Le laquais de Georges avait un air de superbe dédain à regarder M. Clapp en bras de chemise arrosant ses rosiers. Il se découvrit toutefois avec une affable courtoisie quand M. Sedley lui demanda des nouvelles de son gendre, de la voiture, de Joe, de la manière dont les chevaux avaient supporté le voyage de Brighton, et l'infortuné finit comme toujours par tomber sur le sujet de cet infernal sournois de Bonaparte. La servante irlandaise apporta une bouteille et un verre, car le vieux Sedley voulut à toute force que le domestique se rafraîchît, et il lui donna une demi-guinée que le laquais empocha avec un mélange de surprise et de mépris. « Buvez ce verre de vin à la santé de votre maître et de sa femme, » dit M. Sedley, « et n'oubliez pas de boire à la nôtre, Trotter, quand vous serez chez vous. » 9 jours à peine s'étaient écoulés depuis qu'Amélia avait quitté ce modeste réduit, et cependant elle se sentait séparée par un bien long intervalle des temps heureux qu'elle y avait passés. En faisant un retour vers cette époque, quelle différence ne trouvait-elle pas entre la situation présente de son esprit et celle de la jeune fille absorbée dans son amour, dirigeant toutes les forces de son âme sur l'objet unique de ses affections, et payant les soins affectueux de ses parents, sinon par l'ingratitude, du moins par une froide indifférence, tandis qu'elle réservait toute la chaleur de son cœur et de son âme pour réchauffer une espérance dont un jour, peut-être, elle aurait à reconnaître les illusions. Ce coup d'œil rétrospectif vers des temps tout à la fois voisins et si éloignés la saisirent d'une certaine honte, et la vue de son excellente mère, si affligée dans sa solitude, la pénétra d'un tendre remords. Elle était bien forcée d'avouer maintenant que, possédant ce qu'elle croyait le paradis sur terre, ses désirs n'en étaient ni moins inquiets ni plus satisfaits. Quand le nouvelliste, en mariant son héros et son héroïne, leur a fait faire ce qu'on appelle le grand saut, il tire en général la toile sur ce tableau. Eh, mon Dieu, le drame est-il donc fini? Les soucis et les luttes de la vie respectent-ils cette limite? En un mot, ne trouve-t-on plus que des objets couleur de rose sur les terres du mariage? Doit-on croire que la femme et le mari n'aient plus alors qu'à gagner paisiblement, au milieu des plus douces étreintes et des plus ineffables jouissances, le terme de leur vieillesse? Notre petite Amélia, toute fraîche débarquée sur ce nouveau rivage, jetait un dernier regard de regret et d'adieu à ces tristes et charmantes figures dont le courant ne la séparait pas encore assez pour l'empêcher de voir leurs ombres disparaître dans le lointain. En l'honneur de la jeune mariée, Mrs. Sedley voulut faire quelque chose d'extraordinaire. Aussi, après le premier feu de leur entretien, elle quitta un instant Mrs. George Osborne et descendit dans les parties inférieures de la maison où se trouvait une espèce de cuisine, résidence habituelle de M. et Mrs. Clapp et de Miss Flanagan, la servante irlandaise, lorsqu'elle avait lavé la vaisselle et ôté ses papillotes. Mrs. Sedley se rendit donc dans ses profondeurs pour faire préparer un thé remarquable par sa magnificence. Chacun exprime sa tendresse à sa façon. La meilleure pour Mrs. Sedley était de bourrer sa chère Amélia de gâteaux et de salades d'orange servies dans une coupe de cristal. Tandis qu'on s'occupait de la confection des sudites friandises dans les parties basses de la maison, Amélia quittait le salon, montait l'escalier et se retrouvait sans trop savoir comment dans la petite pièce qui lui avait servi de chambre avant son mariage, dans ce même fauteuil où elle avait passé de si longues heures d'angoisse et d'amertume. Elle éprouva le délicieux plaisir que l'on ressent à revoir un vieux camarade. puis ses pensées l'entraînèrent vers la semaine à peine écoulée, et peu à peu, elle revint sur son passé. Recherchait dans le passé les souvenirs heureux, qui contrastent douloureusement avec le présent, gémir sur ses espérances de bonheur évanouies et remplacées par le doute et la souffrance, tel était le sort de cette pauvre et infortunée créature, de cette brebis errante au milieu des luttes et des presses de la foire aux vanités. Assise dans son vieux fauteuil, elle se rappelait avec tout son enthousiasme d'autrefois cette image de Georges, objet de ses confiantes et premières adorations. Fallait-il donc s'avouer maintenant la différence entre la réalité et les traits imaginaires du héros, devant lequel elle eut volontiers jadis brûlé de l'encens? Pour réduire à une pareille extrémité la vanité de la femme qui vous aime et qui vous choisit, il faut ordinairement bien des années et bien des trahisons. Les yeux verts et perçants de Rebecca, son sourire sinistre, venaient ensuite remplir d'effroi la craintive Amélia. Elle resta plongée dans le vague de ses méditations, dans ses rêveries mélancoliques, les mêmes où l'avait trouvée l'honnête Irlandaise, lorsqu'elle lui apporta la lettre qui contenait les nouvelles protestations de Georges et sa nouvelle demande en mariage. Ses yeux étaient fixés sur ce petit lit bien lisse et bien blanc, où naguère reposait encore sa tête de jeune fille. Mais il avait cessé d'être à elle. Alors, elle se prenait à penser au plaisir qu'elle aurait à y dormir encore, à s'éveiller comme autrefois sous les regards souriants de sa mère. Elle songeait avec terreur à ce grand catafalque de Damas qui s'élevait comme un tombeau dans cette vaste et sombre pièce où elle devait passer la nuit à Cavendish Square. Ô cher petit lit bien blanc, que de confidences n'avez-vous pas reçues dans ces longues insomnies? Que de fois, dans son désespoir, ne l'avez-vous pas entendu appeler la mort? Maintenant, elle doit être bien heureuse, et ses désirs sont remplis. Le bien-aimé pour lequel elle a tant soupiré, elle le possède pour toujours. Avec quelle vigilance, quelle tendresse, sa bonne mère n'avait-elle pas veillé sur cette couche de l'innocence? Tous ses souvenirs, toutes ses pensées brisaient ce pauvre petit cœur sensible et passionné. Amélia alla s'agenouiller au pied de son humble couchette, et pour les froissements et les blessures de son âme, demanda le baume consolateur à celui auquel la jeune fille s'était trop rarement adressée jusqu'alors. L'amour avait été sa foi, et maintenant ce cœur saignant et rebuté cherchait l'appui qui ne fait jamais défaut aux âmes souffrantes. Avons-nous le droit d'écouter, de répéter ces prières? Ces mystères sacrés de la conscience, mon cher lecteur, ne doivent point être troublés par le tumulte de la foire aux vanités au milieu de laquelle notre histoire se passe. Nous dirons seulement que quand on vint la chercher pour le thé, la jeune femme descendit avec une âme plus sereine. Ses tristes visions s'étaient évanouies, sa destinée lui paraissait moins amère. Elle ne pensait plus ni aux froideurs de Georges, ni aux yeux verts de Rebecca. Elle embrassa tendrement son père et sa mère, et par ses causeries avec le vieux Sedley, pénétra son âme d'une joie à laquelle il n'était plus accoutumé. Elle trouva le thé excellent, fit ses compliments à sa mère sur la salade d'orange, et, en cherchant à répandre le bonheur autour d'elle, se sentit elle-même plus heureuse. Puis elle repartit pour aller dormir dans le grand catafalque funèbre, et reçut Georges avec un sourire sur les lèvres quand il rentra du théâtre. Le lendemain, maître Georges avait des affaires d'une plus haute importance que d'aller au théâtre applaudir M. Keane. Dès son arrivée à Londres, il avait écrit aux hommes de loi de son père pour leur faire savoir que, dans sa royale sagesse, il avait décidé qu'il aurait avec eux une entrevue le jour suivant. Ses pertes au billard et aux cartes contre le capitaine Crowley avaient presque vidé sa bourse et il désirait se monter en espèces avant son départ. Il n'avait d'autre moyen pour cela que d'entamer les 2000 livres que le notaire avait ordre de lui compter. Du reste, il ne doutait pas que son père, avant peu, ne se relâchât beaucoup de ses sévérités. Quel père assez dur pour ne point finir par ouvrir les yeux sur les mérites d'un prodige de son espèce. Et si ce cœur de roc était capable de résister à la voix du sang et à l'évidence de ses hautes vertus, eh bien, Georges était décidé à recueillir tant de lauriers, à planter tant de trophées sur les champs de bataille qui allaient s'ouvrir pour lui, que le vieillard, vaincu, finirait par reprendre de meilleurs sentiments pour son fils. D'ailleurs, Georges n'avait-il pas le monde devant lui? Sa mauvaise chance aux cartes ne serait peut-être pas éternelle, et 2000 livres, du reste, lui laissaient encore bien du temps. Par ses soins, une voiture conduisit de nouveau Amélia auprès de sa mère. Il donnait carte blanche à ces deux dames pour se conformer dans leurs achats à toutes les exigences de la mode. Il voulait que Mrs. George Osborne ne manquât de rien pour faire sensation à son arrivée en pays étranger. Mais un jour, un seul jour pour de si importantes emplettes, c'était bien peu. Aussi fut-il grandement et gravement rempli. Mrs. Sedley, courant en voiture chez la modiste et la lingère, se voyant escortée jusqu'à son équipage par une foule obséquieuse de commis empressés et polis, se crut un instant revenue au jour de ses grandeurs passées. C'était la première joie qu'elle goûtait depuis ses rudes et pénibles épreuves. Mrs. Amelia ne se montra pas complètement indifférente au plaisir de s'arrêter dans les boutiques, de voir, de marchander et d'acheter de jolies choses. Il ne lui en coûtait point du tout d'obéir aux ordres de son mari, et elle se distinguait dans l'acquisition de ses objets de toilette par une finesse et une élégance toutes féminines, comme disent les marchands, suivant une habitude traditionnelle. Quant à la guerre qu'on voyait poindre à l'horizon, Mrs. Osborne ne s'en tourmentait pas beaucoup. L'affaire de Bonaparte était claire. Il ne pouvait manquer d'être écrasé au premier choc. Les navires de Margate transportaient chaque jour à Gand et à Bruxelles une société élégante et choisie. On avait plutôt l'air de se rendre à une partie de plaisir qu'à une guerre sérieuse. Comment le Corse pourrait-il tenir contre les armées coalisées de l'Europe et le génie de Wellington? Amélia partageait ses sentiments, car il est inutile de dire que cette douce et tendre créature acceptait sans contrôle les impressions de ceux qui l'environnaient. Il y avait trop d'humilité et de soumission dans cette âme pour qu'elle vînt jamais à prendre l'initiative d'une opinion personnelle. Mais revenons à notre sujet. Amélia et sa mère passèrent une grande journée à courir les boutiques de Londres, et la jeune femme trouva à la fois grand succès et grand plaisir à ses débuts dans le monde élégant. George, pendant ce temps, le chapeau sur l'oreille, les coudes en équerre, l'air crâne et provocateur, se dirigeait vers Bedford Row et s'avançait dans l'étude du notaire avec une démarche majestueuse, au milieu de tous les clercs à mine de parchemin, occupés à griffonner des mémoires indéchiffrables. Il enjoignit à l'un d'eux d'aller prévenir M. Higgs que le capitaine Osborne était à l'attendre. Au ton protecteur et arrogant d'Osborne, on aurait pu croire que ce Pékin de notaire, qui avait 3 fois plus de cervelle que lui, 50 fois plus d'argent et 1000 fois plus d'expérience, n'était qu'un pauvre air qui, toute affaire cessante, devait se mettre à la disposition du capitaine. George ne s'aperçut pas du sourire de pitié qui passa sur les lèvres de tous ces gratteurs de papier, comme il les traitait dans son fort intérieur, depuis le maître clerc jusqu'au saut ruisseau. Il s'assit, et tout en caressant avec sa canne la tige de sa botte, il daigna abaisser ses pensées sur le ramassis de pauvres diables qu'il avait devant les yeux. Ces pauvres diables étaient au courant de ses affaires et en parlaient le soir au café tout en buvant leur bière avec des confrères. Quel secret y eut-il jamais pour un notaire ou pour ses clercs? Rien n'échappe à cette puissance scrutatrice mais discrète. Dans les études se règlent mystérieusement les destinées de tous les habitants de la cité. En entrant dans le cabinet de M. Higgs, George s'attendait peut-être à le trouver chargé de quelques messages de réconciliation de la part de son père, et peut-être avait-il pris cette allure dédaigneuse et superbe pour manifester dans son extérieur la résolution et la fermeté de son âme. Mais ses prétentions à l'arrogance ne rencontrèrent chez le notaire que froideur et indifférence, ce qui les rendit encore plus ridicules. M. Higgs était occupé à écrire quand le capitaine entra. « Ayez la bonté de vous asseoir, monsieur, lui dit-il. Je suis à vous à la minute. Monsieur Poe, apportez-moi le dossier, s'il vous plaît. » Et il se remit à écrire. Monsieur Poe, ayant apporté les pièces, le patron demanda à George s'il voulait ses 2000 livres en billets payables à vue ou bien s'il préférait qu'on lui achetât de la rente. Un des exécuteurs testamentaires de feu, Mrs. Osborne, est absent en ce moment, dit-il avec le ton de l'indifférence, mais mon client consent à se conformer à vos désirs pour terminer le plus tôt possible. « Faites-moi un billet, » reprit le capitaine de fort mauvaise humeur. « Je n'ai que faire de vos shillings et vos sous. ajouta-t-il quand l'homme de loi lui présenta le montant de la somme. Il se flattait d'avoir, par ce trait de majestueux mépris, confondu la ridicule exactitude de ce vieil écrivassier, et il sortit du cabinet le papier dans sa poche. « Dans 2 ans, ce garçon-là sera sous clé, » dit M. Higgs à M. Poe. « Croyez-vous donc que le père Osborne ne finisse pas par se radoucir ?»«
Je me fierai plutôt à l'attendrissement d'une borne, » répliqua M. Higgs.
« Du reste, il l'amène bonne et heureuse, » reprit le clerc. « Voilà à peine une semaine qu'il est marié, et je l'ai vu l'autre jour avec d'autres individus de son régiment reconduire au sortir du théâtre Mrs. Highflyer à sa voiture. » Puis la conversation prit un autre cours, et Mrs. George Osborne s'effaça du souvenir de ces messieurs. Le billet était tiré sur nos amis de Lombard Street, Halka et Bullock. George jugea à propos de se diriger sur le champ de ce côté pendant qu'il était en train de faire ses affaires. Il avait hâte de recevoir son argent. Fred Bullock, à la face bilieuse, était précisément à regarder le travail d'un de ses employés dans le bureau où George se présenta. Sa face jaune prit aussitôt une teinte livide et il se retira comme pour cacher le remords de sa conscience dans son cabinet le plus reculé. George, tout occupé à couver des yeux son argent, ne fit aucune attention aux variations de teint et à la fuite du cadavérique adorateur de sa sœur. Fred Bullock instruisit le soir même le vieil Osborne de la démarche de son fils. « Il est fier comme un écu neuf, » lui dit son futur gendre. « Il a pris jusqu'au dernier shilling. Quelques centaines de livres n'iront pas loin avec ce garçon-là. » Le vieil Osborne attesta par le plus terrible serment qu'il se souciait peu du temps et de la manière qu'on mettrait à dépenser cet argent. Quant à George, fort satisfait de l'emploi de sa journée, il fit promptement tous ses préparatifs de départ et Amelia reçut, pour payer ses emplettes, des billets à vue que son mari lui remit avec une générosité de grand seigneur. Chapitre 27. Amelia au régiment. Quand le splendide équipage de Joe s'arrêta à la porte de l'hôtel de Chatham, la première figure qu'avait aperçue Amelia avait été celle du brave capitaine Dobbin, qui, depuis plus d'une heure, arpentait la rue en attendant l'arrivée de ses amis. Le capitaine, avec ses épaulettes, son habit d'uniforme, son ceinturon rouge et son sabre, avait une tournure tout à fait martiale. Joss sentit alors un certain orgueil à pouvoir dire qu'il le connaissait. Aussi mit-il dans son bonjour bien plus de cordialité qu'il lui en avait jamais témoigné à Brighton. Le capitaine avait avec lui l'enseigne Stable, qui, en voyant descendre Amelia de voiture, ne put retenir l'exclamation suivante « Vrai Dieu, la jolie fille !» Osborne se rengorgea à cette approbation spontanée et la prit comme un hommage rendu à son bon goût. À vrai dire, Amelia, dans sa pelisse de mariée, avec ses rubans roses, la fraîcheur que donnait à ses joues un voyage rapide et au grand air, justifiait assez par la gentillesse et le charme de sa figure le compliment de l'enseigne. Dobbin, au fond du cœur, en sut gré à son jeune camarade. Puis, comme il s'avançait pour aider la jeune femme à descendre de voiture, Stable put voir le joli petit pied qui posa à peine sur la marche. Il devint tout rouge pendant qu'il faisait le plus profond salut à la jeune mariée. En voyant le numéro du régiment sur le casque de l'enseigne, Amelia lui fit un petit signe de tête, accompagné d'un doux sourire, ce qui acheva de le clouer sur place. À partir de ce jour, le capitaine Dobbin traita M. Stable de la façon la plus affectueuse, et, à la promenade comme à la caserne, il fut souvent question d'Amelia dans leur conversation. Bientôt, parmi les jeunes et braves officiers du 8e régiment, ce fut à qui aurait le plus d'admiration et de louanges pour Mrs. Osborne. Ses manières simples et naturelles, son air bienveillant et modeste, lui gagnèrent tous les cœurs honnêtes. Notre lecteur doit demander à son imagination, plus encore qu'à nos paroles, une idée de cette douceur et de cette simplicité. La simplicité, voilà un joyau inestimable pour une femme et qu'on peut reconnaître en elle, rien qu'à lui entendre dire qu'elle est engagée pour le prochain quadrille ou que la chaleur la fatigue. George, qui avait toujours eu le pompon dans son régiment, grandit encore dans l'estime de ses jeunes collègues, séduit par son désintéressement à prendre une femme sans fortune et son bon goût à la choisir si charmante. Dans le salon commun, Amelia fut toute surprise de trouver une lettre adressé à Mrs. la capitaine Osborne. C'était un billet rose de forme triangulaire. Sur le cachet, on voyait une colombe tenant dans son bec un rameau d'olivier. La cire n'avait point été ménagée, et l'écriture très large et très lâche accusait une main féminine. « Voilà qui sort du poignet de Peggy O'Dowd, » dit George en riant. « Je le reconnais aux bavures de la cire. » C'était bien en effet un billet de Mrs. la Major O'Dowd qui priait Mrs. Osborne de venir passer la soirée chez elle en petit comité. « Il faut y aller, » dit George à sa femme. « Vous ferez connaissance avec tous les officiers de notre corps. O'Dowd commande le régiment et Peggy commande O'Dowd. » Mais ils étaient à peine, depuis quelques minutes, en possession de la lettre de Mrs. O'Dowd, que la porte s'ouvrit avec fracas et qu'une bonne grosse mère en Amazone, suivie de quelques officiers du régiment, s'avança à leur rencontre. « Me voilà, » fit-elle, « car je n'ai pas pu attendre au thé. Georges, mon cher, présentez-moi à madame. Madame, charmée de faire la vôtre, et de vous présenter mon époux, le major O'Dowd. » Après ce compliment, la joyeuse et grosse Amazone s'élança au cou d'Amelia avec une effusion délirante, et celle-ci reconnut bien vite l'original dont son mari s'était si souvent amusé à lui faire la caricature. « Vous avez dû souvent entendre parler de moi à votre cher époux, » reprit cette dame avec beaucoup de vivacité. « Vous avez dû souvent en entendre parler, » répéta son mari le major, avec la précision d'une serinette. Amelia lui dit qu'en effet, ils avaient souvent parlé d'elle avec son mari. « Je suis sûr qu'il ne m'aura pas trop bien arrangé, » répliqua Mrs. O'Dowd, en ajoutant que George était une mauvaise langue. « J'en répondrai, » continua le major, essayant de prendre un air malicieux, ce qui excita une vive hilarité de la part de George. Mrs. O'Dowd fit claquer son fouet en intimant au major l'ordre de se tenir fixe sur toute la ligne. Puis elle demanda à George d'être présenté à Mrs. la capitaine Osborne, suivant toutes les règles de l'étiquette. « Je vous présente, ma chère femme, » dit George avec le plus grand sérieux, « la très bonne, très aimable et très excellente amie, Aurelia Margaretta, autrement dite Peggy. « Vous y êtes, allez toujours, » dit le major. Autrement dite Peggy, femme de Michel O'Dowd, major de notre régiment, et fille de Fitzgerald Burstford de Budge Maloney, de Glen Maloney, comté de Kildare. Et de Morgan Square à Dublin, reprit la dame avec un air de majesté calme et digne. Et de Morgan Square, cela va sans dire, fit tout bas le major. C'est là que vous m'avez fait la cour, mon cher major, reprit la dame. Le major eut un signe de tête affirmatif pour ces dernières paroles, comme pour celles qui les avaient précédées. Le major O'Dowd avait servi son souverain dans toutes les parties du monde. Bien qu'il eût dû ce grade à quelque chose de plus honorable que des intrigues de boudoir, il était cependant le plus modeste, le plus silencieux, le plus doux et le plus paisible des hommes. C'était un agneau que sa femme menait à sa fantaisie. Il venait en silence de prendre sa place à la table des officiers, buvait beaucoup, puis quand il était gorgé de liquide, il rentrait dans sa chambre pour y cuver son vin. S'il ouvrait la bouche, c'était toujours pour être d'accord sur n'importe quoi, avec n'importe qui. Sa vie s'écoulait ainsi heureuse et égale. Le soleil brûlant de l'Inde n'avait point embrasé son sang, et la fièvre jaune n'avait point eu de prise sur cette rude écorce. Il marchait à une batterie de canon avec la même indifférence qu'il mettait à se rendre à une table servie. Son appétit ne distinguait pas entre un rôti de cheval et une soupe à la tortue. Il avait encore sa vieille mère, Mrs. O'Dowd, de O'Dowdstown, à laquelle il n'avait jamais désobéi qu'en prenant la fuite pour s'enrôler et en s'obstinant à épouser cette gaillarde de Peggy Maloney. Peggy était une des 5 demoiselles faisant partie des 11 enfants de la noble maison de Glen Maloney. Son mari, et tout à la fois son cousin, lui était parent du côté maternel et lui devait l'inestimable avantage d'une alliance avec des Maloneys dont pas une famille au monde n'égalait à ses yeux la noblesse. Après 9 saisons à Dublin et 2 à Bath et à Cheltenham, sans avoir pu trouver personne qui voulût s'atteler avec elle au joug de l'hyménée, Miss Maloney ordonna à son cousin Mick de l'épouser. Elle marquait alors 6 lustres et demi sonnés. L'honnête garçon obéit et emmena sa cousine dans les Antilles, où elle eut comme doyenne d'âge la présidence des dames du 8e régiment,
dans lequel O'Dowd venait de passer par mutation. Mrs. O'Dowd avait à peine passé une demi-heure avec Amelia que celle-ci, subissant le sort commun à toutes les nouvelles connaissances de la major, dut écouter d'un bout à l'autre l'histoire de sa famille et la généalogie des Maloneys. « Ma chère, disait-elle, dans le laisser-aller de ses épanchements, je voulais faire de George mon beau-frère, et ma sœur, Glorvina, lui allait parfaitement. Mais ce qui est fait n'est plus à faire. Et puisqu'il vous a épousé, vous êtes désormais pour moi comme ma sœur, pas vrai? C'est maintenant comme si vous étiez de la famille. Vous avez une petite mine chiffonnée qui me plaît, et je vois d'ici que nous nous entendrons au mieux. Et nous n'aurons au régiment qu'à marquer un de plus au total. » C'est cela. « Nous n'aurons qu'à marquer un de plus au total, » dit O'Dowd d'un air approbateur. Amelia, fort reconnaissante de ses bons procédés, se divertit néanmoins beaucoup d'un accueil aussi cavalier et de cette brusque introduction au milieu de sa nouvelle et nombreuse famille. « Ici, nous sommes tous de bons diables, » continua la femme du major. « Il n'y a pas un régiment au service où vous puissiez trouver plus d'union et de concorde que dans le nôtre. » Jamais de querelles, de mauvais rapports, de médisances parmi nous. Il y règne, tout au contraire, une affection réciproque à l'égard les uns des autres. Exemple, Mrs. McGinnis et vous, dit George en riant. Mrs. la capitaine McGinnis et moi avons fait notre paix, et pourtant elle s'était conduite avec moi à me rendre les cheveux tout blancs et à me mettre à deux doigts du tombeau. Ah, Peggy, ma chère, c'eût été dommage pour ces belles tresses noires, s'écria le major. Taisez votre bec, gros bêta. Voyez-vous, c'est Marie, Mrs. Osborne, il faut toujours que ça lève la tête. Quant à Mick, je lui ai dit qu'il ne devrait jamais ouvrir la bouche que pour donner le mot d'ordre, boire et manger. Il faudra que je vous fasse connaître notre personnel. Je vous donnerai tous les renseignements dans le tête-à-tête. Présentez-moi maintenant à votre frère. En vérité, c'est un bel homme. Il me rappelle mon cousin Dan Maloney, « Maloney de Ballymaloney, ma chère. Vous savez qu'il a épousé Ophelia Scalley de Oystertown, cousine de Lord Paul Doody. Monsieur Sedley, charmé de faire la vôtre. Vous dînerez, je pense, avec nous ce soir à la table des officiers. Pensez au docteur, Mick, et tenez-vous bien pour ne pas vous mettre hors combat pour la réunion de ce soir. Nous pourrions peut-être, ma chérie, fit observer le major, avoir pour M. Sedley un billet d'invitation à ce dîner d'adieu que nous donne le 150e. Vite Simple, l'enseigne Simple de notre régiment. Ma chère Amelia, j'avais oublié de vous le présenter. Courez en toute hâte, vous offrirez au colonel Tavish les compliments de Mrs. la major O'Dowd et vous lui direz que le capitaine Osborne a amené avec lui son beau-frère et que nous le lui conduirons dans la salle du banquet à 5 heures sonnant. « Voulez-vous, ma chère, venir prendre avec moi quelque chose pour tromper la faim jusque-là ? Allons, pas de cérémonie, je vous prie. » Tandis que Mrs. O'Dowd continuait sa litanie, le jeune enseigne, déjà au bas de l'escalier, courait s'acquitter de sa commission. L'obéissance est l'âme du soldat. « Amy, dit le capitaine George, nous allons à notre service. Pendant ce temps, Mrs. O'Dowd voudra bien procéder à votre éducation militaire. » Les deux capitaines prirent chacun un bras du major et se firent l'un à l'autre, par-dessus sa tête, une grimace d'intelligence. Une fois en possession de sa nouvelle amie, Mrs. O'Dowd l'accabla d'une avalanche de renseignements à laquelle ne pouvait résister la mémoire de la pauvre petite patiente. Amelia fut initiée à toute l'histoire secrète de la nombreuse famille dans les rangs de laquelle la jeune dame s'étonnait d'être encore si vite entrée. Mrs. Heavytop, la femme du colonel, était morte à la Jamaïque d'une passion malheureuse fortement compliquée de fièvre jaune. Quant à ce vieux monstre de colonel, auquel on ne voyait pas plus de cheveux sur la tête qu'il n'y en a sur un boulet de canon, il avait conté fleurette à une fille métisse de la localité. Mrs. McGinnis, à laquelle manquaient les premiers rudiments de l'éducation, était au demeurant une brave femme. Mais elle avait une langue infernale et aurait triché sa mère au whist. Mrs. la capitaine Kirk ne manquait pas de lever au ciel ses grands yeux de homard effarouchés dès qu'on parlait de faire le plus innocent loto. Et pourtant, continuait le major, mon père, l'homme le plus pieux qui soit entré dans une église, le doyen Maloney, mon oncle et notre cousin l'évêque font tous les soirs, en parfaite tranquillité de conscience, leur partie de mouche ou de whist. Du reste, aucune de ces dames n'accompagne le régiment, reprit Mrs. O'Dowd. Fanny McGinnis reste avec sa mère, marchande, comme vous savez, de charbon et de pommes de terre, à Islington Town, tout près de Londres. Aussi la fille est-elle toujours à nous parler des navires de son père et à nous appeler pour nous les faire voir quand ils montent la rivière. Mrs. Kirk et ses enfants resteront ici, à Bethesda Place, pour être plus à portée de leur prédicateur favori, le docteur Ramshorn. Mrs. Bunny est dans une situation intéressante, mais c'est pour elle un état normal. Voilà le 8e qu'elle va donner au lieutenant. La femme de l'enseigne Posky, qui nous est arrivée 2 mois avant vous, ma chère, s'est déjà querellée plus de 20 fois avec Tom Posky. On entend leur vacarme de toute la caserne. D'après le bruit qui court, ils en seraient déjà à se jeter les plats à la tête. Tom n'a point voulu s'expliquer la semaine dernière sur un œil au beurre noir. Quant à madame, elle va retourner chez sa mère, qui tient une pension de demoiselle à Richmond. Pour en venir là, elle eût aussi bien fait de se tenir tranquille au lieu de se laisser enlever. Où avez-vous étudié, ma chère? Moi, j'ai été élevée chez Mrs. Flanagan, au bosquet d'Ilissus, près de Dublin, et la pension y coûtait bon. Rien qu'une marquise pour nous donner la prononciation de Paris, et un major général retiré du service pour nous faire marcher au pas. Amelia n'en revenait pas de ses singulières communications et de ses titres de parenté qui, sans plus de cérémonie, lui donnait Mrs. O'Dowd pour sœur aînée. On la présenta le soir même au reste de sa famille improvisée. Comme elle était timide et aimable, sans être assez belle pour donner de l'ombrage aux autres femmes, la première impression fut en sa faveur. Mais les officiers du 150e étaient survenus et l'ayant jugé digne de leur attention particulière, toutes ses sœurs se mirent bien vite à lui trouver des défauts. Osborne en a donc fini avec ses folles dépenses, dit Mrs. McGinnis à Mrs. Bunny. Si dans un débauché converti, on peut tailler un bon mari, il y a des chances pour que George devienne le modèle du genre, fit observer Mrs. O'Dowd à Mrs. Posky, jusqu'alors la plus jeune mariée du régiment, et furieuse par suite contre la nouvelle venue qui lui prenait sa place. Quant à Mrs. Kirk, l'assistante du docteur Ramshorn, elle posa à Mrs. Osborne 2 ou 3 questions de principe sur le dogme pour voir si c'était une brebis marquée au sceau de l'élection. À la simplicité des réponses de la jeune femme, elle décida que cette âme errait encore dans les plus épaisses ténèbres. Pour la rapprocher le plus vite possible de la lumière, elle lui remit 3 excellents petits livres à bon marché et ornés de vignettes. En voici les titres. Les gémissements au désert. La blanchisseuse de Wandsworth. La vraie baïonnette du soldat anglais. Désireuse de la tirer de ce chaos d'ignorance, avant que le sommeil fût venu fermer ses yeux, Mrs. Kirk pressa Amelia de lui promettre de ne pas se coucher avant d'avoir lu ses petits manuels. Les hommes, étrangers à tous ces petits manèges, firent cercle autour de la charmante femme de leur camarade et épuisèrent en son honneur tout le répertoire de la galanterie militaire. Ce fut une véritable ovation qui ranima le courage d'Amelia et rendit à ses yeux tout leur éclat. George se sentait fier des succès de sa femme et surtout du mélange de grâce et de timidité avec lequel elle recevait les hommages de ses jeunes adorateurs et répondait à leurs compliments. Quant à lui, sous son brillant uniforme, il éclipsait tous les autres officiers et tenait un regard d'affectueuse tendresse sans cesse attaché sur sa femme. Ce soir-là, Amelia fut bien heureuse et son pauvre petit cœur en bondissait de joie. « Je veux être aimable pour tous ses amis, » disait-elle en elle-même. « Il suffit qu'ils soient ceux de Georges pour devenir les miens. Je m'efforcerai de lui faire trouver la joie et la gaieté dans son intérieur pour le lui faire chérir davantage. » L'entrée d'Amelia au régiment se fit donc par acclamation. Les capitaines la trouvaient charmante, les lieutenants chantaient ses louanges, et les enseignes lui auraient brûlé de l'encens. Le chirurgien-major, le vieux Cutler, risqua 2 ou 3 plaisanteries qui sentent trop l'anatomie pour trouver place ici. Cackle, son aide, qui avait pris ses grades à l'université d'Édimbourg, daigna causer avec elle littérature et lui adresser quelques citations françaises. Enfin, Stubble allait de l'un à l'autre, glisser à l'oreille de chacun. « Hein, n'est-ce pas qu'elle est jolie ?»
le vin chaud eut seul le pouvoir de le détourner de sa contemplation. Quant au capitaine Dobbin, il ne dit mot à Amelia de toute la soirée, mais il reconduisit Joss à son hôtel, assisté du capitaine Porter. Le pauvre garçon avait la démarche fort vacillante. Le récit de ses chasses au tigre avait eu un succès fou, d'abord à table auprès des officiers, puis le soir sur Mrs. O'Dowd, qui se prélassait à l'ombre de son turban à l'oiseau de paradis. Dobbin remit l'ex-receveur aux mains de son domestique et resta à se promener et à fumer son cigare sur le devant de l'hôtel. George, au moment de partir de chez Mrs. O'Dowd, avait soigneusement enveloppé sa femme dans son châle, et celle-ci donna à la ronde une poignée de main à tous les officiers qui l'accompagnèrent jusqu'à sa voiture et la suivirent encore de leurs bruyantes acclamations. Amelia, pour descendre de voiture, s'appuya sur la main de Dobbin et le gronda en souriant de ne s'être pas approché d'elle de toute la soirée. Le capitaine fumait encore son cigare que déjà, depuis longtemps, tout dormait dans l'hôtel et dans la rue. Il avait regardé la lumière disparaître du salon de George, puis briller ensuite et s'éteindre dans la chambre à coucher. Il rentra dans ses quartiers aux clartés incertaines d'un jour qui commençait à poindre. Déjà un sourd murmure de crise et de manœuvre s'élevait du côté de la rivière. C'étaient les bâtiments de transport qui recevaient leurs nombreux passagers pour les porter sur le continent, bien loin des rives de la Tamise.